Bienvenue dans Hacker News Daily, le podcast de Brie Radio. Je suis Claire Martin et avec mon collègue Nicolas Moreau, on revient sur quelques sujets forts de la journée du côté des publications les plus discutées.
On parlera notamment de caméras de surveillance financées par les compagnies d'assurance et d'un texte qui autorise les agences américaines à surveiller journalistes et syndicats au nom de la sécurité intérieure.
Côté technique, un port partiel de GraphenOS vers la série Pixel 11, la sortie de VLLM version 0.28 et un vote chez Debian en faveur d'une utilisation responsable de l'IA générative. Sans oublier le télescope spatial Nancy Grace Roman.
Et on terminera en s'interrogeant sur la culture d'entreprise comme levier de productivité, ainsi que sur un fondateur de Burning Man qui estime que le festival a perdu son âme. Bonne écoute.
Une publication sur Hacker News reprend un article du Los Angeles Times du 26 août 2026, signé par Laura Milan pour Bloomberg, sur le record de chaleur océanique. Selon Copernicus, l'agence européenne d'observation de la Terre qui suit cette mesure chaque jour depuis 1979, la température moyenne mondiale de surface de la mer a atteint 21 degrés Celsius, soit 70 degrés Fahrenheit, le 22 août, la plus élevée jamais mesurée sur une seule journée.
Ce qui rend ce record préoccupant, c'est qu'il tombe alors qu'un puissant El Niño se forme dans le Pacifique tropical. Samantha Burgess, responsable stratégique du climat au Centre européen de prévision météorologique de Copernicus, explique qu'El Niño ajoute de la chaleur au système par-dessus des décennies de réchauffement d'origine humaine, et que des océans plus chauds accroissent les risques pour les écosystèmes marins et les communautés côtières. Copernicus juge aussi ce record d'août particulièrement inattendu, car les températures océaniques mondiales atteignent normalement leur maximum en mars-avril après l'été austral, le précédent record sur une seule journée daté de mars 2024.
Les conséquences citées dans l'article couvrent l'élévation du niveau de la mer, l'intensification des tempêtes et des chaleurs sur Terre, et la moindre capacité des océans plus chauds à absorber le dioxyde de carbone. Des températures records ont déjà été mesurées dans des zones isolées, notamment en Méditerranée occidentale et au pôle, principalement attribuées au changement climatique d'origine humaine. Copernicus s'attend à ce que la tendance se poursuive. Sur Hacker News, une publication signée DeepLogin reprend un article du Texas Tribune du 28 août 2026 sur les caméras Flock au Texas. En 2023, la législature du Texas a adopté à l'unanimité une loi ajoutant $1 au coût des assurances automobiles pour les Texans afin de lutter contre le vol rampant de convertisseurs catalytiques, et une partie de ce prélèvement a servi à financer le réseau de caméras de surveillance Flock.
Les réactions dans la discussion sont vives, avec notamment un commentaire à la une qualifiant ces caméras de sales espions. L'article explore comment ce mécanisme, créé à l'origine pour lutter contre un délit précis, a été détourné pour financer un réseau automatique de surveillance des plaques d'immatriculation.
Une discussion sur Hacker News porte sur le département de la sécurité intérieure américain, qui utiliserait une loi obscure pour surveiller des journalistes, des organisations à but non lucratif et des syndicats. La publication originale, signée Fear Facts, renvoie à un article du Guardian du 29 août 2026.
Dans les commentaires, un utilisateur identifie la disposition en question, le titre 19 du Code des États-Unis, section 1509, qui traite des importations douanières. Conçue à l'origine pour la régulation du commerce international, cette loi serait utilisée par le département pour exiger la production de documents auprès de journalistes et d'organisations de la société civile, afin d'accéder à leurs communications et registres, des personnes protégées par la liberté de la presse et le droit d'association. La discussion souligne le décalage entre l'objet initial de la loi, les importations, et son usage contre des acteurs politiques et médiatiques.
Le projet GraphenOS a annoncé sur Blue Sky avoir réalisé un port partiel vers la série Pixel 11 après une semaine de travail, sans pouvoir l'achever, faute de prise en charge du Memory Tagging Matériel ARM, le MTE, dans le logiciel, dans le firmware et, selon toute vraisemblance, dans le matériel. Le projet estime que Google a coupé cette fonction de sécurité pour économiser de l'argent.
Dans la discussion, un représentant de GraphenOS avance que Google a probablement retiré le MTE pour réduire la surface de puce occupée par le cache du CPU, économisant sur une fonctionnalité jamais déployée par défaut, et utilisée seulement pour quelques processus dans le cadre d'Android Advanced Protection Mode, sans l'activer dans le noyau Linux. Or, pour GraphenOS, perdre le MTE retire l'une des principales protections du noyau et de l'espace utilisateur, et l'une des seules façons de durcir le noyau Linux avec des fonctions de sécurité existantes. Le noyau Linux serait une énorme faille de sécurité pour Android, rendue plus évidente par les modèles d'IA.
Le projet utilise le mode synchrone du MTE dans le noyau, et le représentant estime que le mode asymétrique aurait un impact de performance négligeable, le mode asynchrone étant presque sans coût. Il pense que Google utilisera probablement beaucoup le MTE à l'avenir, mais que les Pixel 11 n'en bénéficieront pas alors qu'ils entament 7 années de mise à jour. Les Pixel 8 et ultérieurs pourraient en profiter si Google étend le MTE à l'Advanced Protection Mode, puis l'active par défaut. Et plusieurs autres fabricants seraient intéressés par le MTE, selon le projet. Tense vient de publier et d'ouvrir en source i4 une version préliminaire de son modèle, et les chiffres de traction sur OpenRouter donnent le tournis. Des milliers de milliards de jetons traités en quelques jours, plus que GLM 5 mars sur une semaine entière, selon un commentateur de la discussion Hacker News.
Ce qui est frappant, c'est que cette adoption massive s'accompagne d'un prix relativement bas, avec un coût de cash à 5%, là où la plupart des gens facturent encore 10 ou 20%. En clair, Tencent casse les tarifs au moment précis où l'usage explose.
Version 0.28 de VLLM, le serveur d'inférence très utilisé, vient de sortir. Et la discussion autour de cette release est surtout alimentée par une frustration récurrente chez les utilisateurs.
Un utilisateur qui faisait tourner DeepSeek V4 Full H sur une puce B300 raconte que sur la version 0.26, tout était cassé, au point de devoir ajouter 3 correctifs hors arbre. En passant à la version 0.27, plus aucun correctif nécessaire en théorie, mais la sortie devenait aléatoirement du charabia. La communauté Debian vient de voter pour autoriser ce qu'elle appelle l'usage responsable de l'IA générative. Un commentateur de la discussion espère que cela se passera mieux qu'avec Microsoft sur Windows 11.
Au passage, cette remarque a elle-même été contestée dans la discussion. On ignore si Windows 11 a réellement souffert de l'usage d'IA générative ou si c'est juste une pique gratuite. Du côté de Samsung, la fiche publiée sur les processeurs expose la poursuite de sa technologie de traitement dans la mémoire, la PAIM. Un commentateur rappelle avoir vu chez Samsung, il y a quelques années, un module HBM2 embarquant la PAIM, ce qui l'avait alors impressionné.
Mais la même personne pointe l'obstacle de fond. Aucune application tueuse ne s'est imposée pour cette technologie, et sans elle, l'adoption risque de rester limitée.
Parlons du télescope spatial Nancy Grace Roman. Dans la discussion Hacker News autour de ce lancement, un point ressort. Sur certaines tâches, notamment les relevés astronomiques, le champ de vision est décisif. Il faudrait de nombreux télescopes Hubble pour accomplir ce que Roman peut faire en cartographiant l'ensemble du ciel dans cet intervalle.
C'est précisément là que le Roman se distingue. Sa conception vise un très large champ de vision, pensé pour balayer de vastes régions du ciel en une seule image, là où Hubble explore des zones bien plus étroites. Pour un relevé systématique, c'est une différence de nature, pas seulement de taille d'image.
Et c'est ce qui donnera à Roman sa capacité de cartographier largement le ciel en quelques années, là où il aurait fallu des décennies avec l'instrumentation précédente. Le commentaire souligne que le champ de vision est critique pour certaines tâches, les relevés en particulier, avant même d'évoquer les autres capacités scientifiques du télescope.
Autre fil intéressant, la visualisation des espaces colorimétriques CIE 1931, intitulé Quantifying Color. Le choix pédagogique de l'auteur divisait les commentaires. Certains jugeaient l'article intéressant, mais étrange, regrettant des courbes de sensibilité approximatives en forme de cloche, alors qu'on connaît aujourd'hui les réponses typiques des cônes humains, notamment les mesures Stockman et Sharp. Un commentateur trouvait le blanc D65 trop bleu dans les illustrations, donc les couleurs un peu fausses, et reprochait au texte de mettre longtemps avant d'arriver à l'essentiel, le fort recouvrement des réponses des cônes, la sensation de couleur naissant en quelque sorte de leur différence. Pour lui, la transformation matricielle vers la chromaticité était techniquement correcte, mais peu accessible.
L'auteur, Ekune Asano, confirme que couleurs et courbes sont approximatives. Il a écrit l'article rapidement pendant ses dernières vacances d'été pour le soumettre avant la date limite de Somme 4, le concours d'exposé maths. Son public visé, des lecteurs ayant des bases de mathématiques de lycée mais aucun bagage sur la couleur, explique son choix d'un exposé long mais complet, en partant de la distribution spectrale de puissance plutôt que du RVB pour poser d'abord la bonne physique. Le billet de Martin Hucker, daté du 29 août 2026, montre comment appeler indirectement des fonctions imbriquées de GCC sans pile exécutable. Sur x86-64, GCC place un trampoline sur la pile qui charge la chaîne statique, puis saute vers la fonction locale. Pour les versions antérieures à GCC 17, Hucker propose d'extraire de ce trampoline l'adresse du code et la chaîne statique, puis d'appeler la fonction via la primitive built-in call with static chain, une idée implémentée dans sa bibliothèque expérimentale NoPlat.
Avec des limites claires, le trampoline est toujours créé, le compilateur ne dévirtualise pas l'appel indirect, et la pile reste marquée exécutable. Comme le trampoline n'est jamais invoqué, une commande de nettoyage des protections peut ensuite rendre la pile non exécutable. Dans la discussion, un commentateur jugeait ce code automodifiable intéressant, mais désactivé, pour des raisons de sécurité, et un autre rappelait que les caches d'instructions doivent aussi en être conscients.
La réponse, vider le cache est facile mais coûteux, ce qui rend non viable certaines techniques anciennes. Le biais évoque aussi le noyau Linux, qui se patche lui-même pour ajouter du traçage ou un no-op, selon les fonctionnalités. Et un commentateur des années 80 raconte que son éditeur patchait son propre exécutable pour éviter de relire un fichier de configuration lent sur disquette, une technique abandonnée quand l'anti-malware a été intégré au système.
Enfin, un billet intitulé « Bug blindness », littéralement l'aveuglement au bug. La discussion renvoie à une observation de carrière. La majorité des utilisateurs d'un logiciel s'en servent d'une manière que les développeurs jugent déroutante, avec des flux de travail qu'ils n'auraient jamais imaginés, qui pourtant parviennent à ce qu'ils veulent faire. Le second constat, c'est que la plupart des logiciels contiennent des bugs. Les utilisateurs qui attendent d'obtenir ce qu'ils veulent passent outre, souvent sans même signaler ce qu'ils contournent, ce qui renforce cette cécité au défaut depuis l'autre côté de l'écran.
Un article du bulletin Engineering Leadership présente la bonne culture d'entreprise comme le plus grand levier de productivité, plus décisif que l'IA. Un commentateur, Newsomics 9XL, rétorque que les équipes DevOps parlaient déjà de culture sans grand résultat et demandent quoi faire face aux managers et dirigeants toxiques.
Animal Muppet y répond indirectement. En lisant le billet, il réalise que la culture toxique expliquerait parfaitement certains échecs. Le débat porte moins sur l'importance de la culture que sur la difficulté à la changer quand les responsables du problème sont précisément ceux qui détiennent le pouvoir.
Un des cofondateurs de Burning Man écrit dans le SF Standard que le festival a perdu son âme. Sur Hacker News, la réaction générale est que cela fait des années que c'est évident.
Pierce Maker précise qu'on en parle depuis plus d'une décennie, tout en admettant qu'il est difficile de tracer une ligne précise. Un autre commentateur relève que le fondateur lui-même se plaint du sujet, ce qui alimente le constat que ce déclin perçu n'a rien de nouveau.
Defrag 98, créé par Denis Morello, est un simulateur gratuit dans le navigateur du défragmenteur de disques de Microsoft Windows 98. Il s'exécute entièrement dans le navigateur, fonctionne hors ligne comme application web installable et ne lit, ne déplace ni ne modifie jamais de vrais fichiers sur l'appareil. On choisit parmi 4 lecteurs virtuels de CAF de 512 mégaoctets à 2 gigaoctets, du disque lent et grinçant au disque rapide de la fin des années 1990, chacun avec sa propre vitesse et son temps estimé.
La grille familière de grappes colorées se réorganise en temps réel, les données fragmentées étant consolidées en un bloc contigu, avec les grappes libres non optimisées, en lecture ou en écriture dessinée comme dans l'utilitaire original, et des effets sonores authentiques de disques durs. La version affichée est le build 80C3 Isiaro 3 Bundu, Könnte Semlan 9.
Dans les commentaires Hacker News, Pierre Wattlife Farmé a salué le bruit du disque, estimant que s'il est généré par IA, c'est là la révolution de l'IA, et demandant un économiseur d'écran multiplateforme. Vessen a aimé le bruit mais a trouvé le simulateur plus rapide que ses vrais disques de l'époque. Eikuro en a expliqué la raison. La vitesse vient du calcul simple de 1000 divisé par le nombre d'IOPS par disque relevé dans le code source et en fixant la valeur à 1000 IOPS via un point d'arrêt, le délai par ligne passe de 2 à 4 secondes à une seule seconde.
Enfin, Piamb a proposé une version pour les modèles d'IA avec un mode veille où il s'auto-élague et s'optimise.
Alors, on va retenir cette image. Des océans à la température la plus élevée jamais enregistrée, pendant qu'un puissant El Niño s'installe dans le Pacifique tropical. Et de l'autre côté, ce système de caméras floc financé discrètement par une taxe de 1$.
Deux sujets bien différents, mais qui restent en mémoire. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.